From the conference center at Temple...
Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche après-midi de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la dernière session de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle à Temple Square sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy avec Andrew Hansworth à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant In Hymns of Praise. Ensuite, Gary Sabin, des 70, fera la prière d'ouverture.
Raise your voices, raise your hymn. Notre cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour l'occasion de participer à cette dernière session de la conférence générale. Nous sommes tellement reconnaissants pour la musique inspirante et les messages que nous avons entendus et ressentis à cette conférence historique. Nous prions pour que nos cœurs soient ouverts et nos esprits ouverts à toi et aux messages qui ont été préparés soigneusement afin que nous agissions selon les impressions et les sentiments que nous ressentons et que nous soyons de meilleurs disciples. Nous sommes conscients de tous ceux qui sont assemblés ici et dans le monde et qui ont des lourds fardeaux, qui se sentent seuls, effrayés ou confus. Nous prions pour qu'ils puissent être réconfortés par l'Évangile et qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin et qu'ils recherchent ardemment. Nous sommes profondément reconnaissants pour ton amour, pour ton Fils bien-aimé, pour le plan et pour l'occasion d'être ici, dirigé par des prophètes voyants et révélateurs. Nous prions que nous soyons bons les uns envers les autres, et suivant ce que le prophète nous enseigne, et que nous nous aidions les uns les autres à suivre le chemin des alliances. Et nous, que nous soyons, nous le disons au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Le chœur va maintenant interpréter « Oui, je crois en Christ ». Puis nous aurons le plaisir d'entendre Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Brian Ashton, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche. Robert Gay, de la présidence des 70, nous adressera ensuite la parole et il sera suivi de Matthew Carpenter des 70.
Thank you. Mes chers frères et sœurs, je suis reconnaissant de cette occasion de m'adresser à vous. Cette conférence m'a inspiré et édifié. La musique et les discours ont été portés à notre cœur par le Saint-Esprit. Je prie pour que ce que je vais dire vous soit communiqué par le même esprit. Il y a de nombreuses années, j'étais le premier conseiller d'un président de district de l'Est des États-Unis. Il m'a dit plus d'une fois, tandis que nous nous rendions dans nos petites branches, Al, quand tu rencontres quelqu'un, traite-le comme s'il avait de graves problèmes. Et tu auras raison dans plus de la moitié des cas. Non seulement il avait raison, mais j'ai appris avec les années que son estimation était trop basse. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager dans les difficultés que vous rencontrez. Notre condition mortelle a été conçue par un Dieu aimant pour être une mise à l'épreuve et une source de progression pour chacun de nous. Vous vous souvenez des paroles de Dieu à la création du monde concernant ses enfants? Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. Depuis le début, les épreuves n'ont pas été faciles. Nous rencontrons des tribulations liées à notre corps mortel. Nous vivons tous dans un monde où la guerre que Satan mène contre la vérité et contre notre bonheur personnel s'intensifie. Le monde et votre vie peuvent vous sembler de plus en plus bouleversés. Laissez-moi vous rassurer. Le Dieu aimant qui a permis que vous ayez ces épreuves a aussi conçu un moyen sûr de les traverser. Notre Père Céleste a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé pour nous aider. Son Fils Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ a porté à Gethsémané et sur la croix le poids de tous nos péchés. Il a connu tous les chagrins, les souffrances et les effets de nos péchés afin de pouvoir nous réconforter et nous fortifier dans toutes les épreuves de la vie. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit à ses serviteurs, je cite, « Le Père et moi sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et puisque vous m'avez reçu, vous êtes en moi et moi en vous. C'est pourquoi je suis au milieu de vous, et je suis le bon berger et la pierre d'Israël. Celui qui bâtit sur ce rocher ne tombera jamais. » Notre prophète Russell M. Nelson a aussi donné cette même assurance. En outre, il a décrit comment nous pouvons édifier sur ce rocher et écrire le nom du Seigneur sur notre cœur pour qu'il nous guide à travers nos épreuves. Il a dit, je cite, « Si vous êtes momentanément découragé, souvenez-vous que la vie n'est pas censée être facile. Il faut supporter en chemin les épreuves et le chagrin. En vous souvenant que rien n'est impossible à Dieu, sachez qu'il est votre Père. Vous êtes un fils ou une fille créée à son image, ayant droit, de par votre dignité, de recevoir la révélation pour vous aider dans vos efforts justes. Vous pouvez prendre sur vous le saint nom du Seigneur. Vous pouvez vous qualifier pour parler au nom sacré de Dieu. » Fin de citation. Les paroles du président Nelson nous rappellent la promesse exprimée dans la prière de Sainte-Seine, promesse que notre Père Céleste accomplit lorsque nous faisons à notre tour ce que nous avons promis. Écoutez ces paroles. Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ de bénir et de sanctifier ce pain pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils. Et te témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Amen. Chaque fois que nous prononçons le mot « Amen » lorsque cette prière est faite pour nous, nous promettons qu'en prenant le pain, nous sommes disposés à prendre sur nous le saint nom de Jésus-Christ, à nous souvenir toujours de lui et à respecter ses commandements. En retour, nous avons la promesse que nous aurons toujours son esprit avec nous. Du fait de ses promesses, le Sauveur est le rocher sur lequel nous pouvons nous tenir en toute sécurité et sans crainte au milieu de toutes les tempêtes que nous rencontrons. En méditant sur les paroles de l'Alliance et les bénédictions promises, je me suis demandé ce que signifie être disposé à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Le président Oaks a expliqué, je cite, « Il est significatif que lorsque nous prenons la Sainte Cène, nous ne témoignons pas que nous prenons sur nous le nom de Jésus-Christ. Nous témoignons que nous sommes disposés à le faire. Le fait que nous témoignons seulement de notre disposition à le faire suggère qu'il doit se passer quelque chose d'autre avant que nous prenions véritablement son nom sur nous dans le sens le plus important. » Fin de citation. L'affirmation que nous sommes disposés à prendre sur nous son nom signifie que bien que nous ayons pris son nom sur nous à notre baptême, nous n'avons pas fini de le faire alors. Nous devons travailler continuellement à prendre son nom sur nous tout au long de notre vie, notamment lorsque nous renouvelons nos alliances pendant la Sainte Cène et contractons des alliances dans les saints temples du Seigneur. Deux questions essentielles se posent donc à chacun de nous. Que dois-je faire pour prendre son nom sur moi? Et comment puis-je savoir que je fais des progrès? Les paroles du président Nelson suggèrent une réponse utile. Il a dit que nous pouvons prendre le nom du Sauveur sur nous et parler pour lui. Lorsque nous parlons pour lui, nous le servons. Souvenez-vous de la citation, « Car comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et est loin des pensées et des intentions de son cœur ?» Cela exige la prière de la foi. La prière fervente adressée à notre Père Céleste est nécessaire pour apprendre quels sont les mots que nous pouvons prononcer pour aider le Sauveur dans son œuvre. Nous devons nous qualifier pour mériter l'accomplissement de la promesse. Que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. Oui, prendre son nom sur nous signifie beaucoup plus que parler pour lui. Il y a des sentiments que nous devons éprouver dans notre cœur pour nous qualifier pour être ses serviteurs. Le prophète Mormon a décrit ces sentiments qui nous qualifient et nous permettent de prendre son nom sur nous. Ces sentiments sont la foi, l'espérance et la charité, qui est l'amour pur du Christ. Mormon a expliqué à des gens comme vous, « Car je juge que vous avez foi au Christ à cause de votre humilité. Car si vous n'avez pas foi en lui, alors vous n'êtes pas digne d'être compté parmi le peuple de son Église. Et en outre, mes frères bien-aimés et sœurs, Je voudrais vous parler de l'espérance. Comment pouvez-vous parvenir à la foi si vous n'avez pas l'espérance? Et qu'allez-vous espérer? Voici, je vous dis que vous aurez l'espérance par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, d'être ressuscité pour la vie éternelle, et cela à cause de votre foi en lui selon la promesse. C'est pourquoi, si un homme a la foi, il doit nécessairement avoir l'espérance, car sans la foi, il ne peut y avoir d'espérance. Et en outre, voici, je vous dis qu'il ne peut avoir la foi et l'espérance s'il n'est doux et humble de cœur. Sinon, sa foi et son espérance sont vaines, car nul n'est acceptable devant Dieu si ce n'est ceux qui sont doux et humbles de cœur. Et si un homme est doux et humble de cœur et confesse par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, il doit nécessairement avoir la charité, car s'il n'a pas la charité, il n'est rien. C'est pourquoi il doit nécessairement avoir la charité. Après avoir décrit la charité, Mormon continue. Mais la charité est l'amour pur du Christ, car elle subsiste à jamais, et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et sœurs, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Amen. Je témoigne que le Sauveur met son nom dans notre cœur. La foi en lui, de beaucoup d'entre vous, est en train d'augmenter. Vous ressentez davantage d'espérance et d'optimisme. Et vous ressentez l'amour pur du Christ pour les autres et pour vous-même. Je le vois chez les missionnaires qui servent dans le monde entier. Les membres parlent de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, à leurs amis et aux membres de leur famille. Des hommes, des femmes, des jeunes et même des enfants servent par amour pour le Sauveur et pour leur prochain. Dès que la nouvelle d'une catastrophe dans le monde arrive, qui sont tellement fréquentes maintenant, aujourd'hui, les membres font des plans pour apporter des secours, parfois au-delà des océans, sans qu'on le leur demande. Il est parfois difficile d'attendre que la région dévastée puisse les recevoir. Je suis conscient que certains d'entre vous qui écoutez aujourd'hui ont le sentiment que leur foi et leur espérance sont submergés par leurs difficultés. Et ils aspirent peut-être à être aimés. Frères et sœurs, le Seigneur vous donne des occasions proches de vous de ressentir et de transmettre son amour. Vous pouvez prier avec confiance pour que le Seigneur vous guide vers quelqu'un à aimer pour lui. Il répond aux prières des humbles bénévoles comme vous. Vous ressentirez l'amour de Dieu pour vous et pour la personne que vous servez en son nom. Tandis que vous aimerez les enfants de Dieu dans leurs difficultés, vos problèmes personnels vous sembleront plus légers. Votre foi et votre espérance seront fortifiés. Je suis un témoin oculaire de cette vérité. Toute sa vie, ma femme a parlé pour le Seigneur et servi les gens pour lui. Comme je l'ai mentionné, l'un de nos évêques m'a dit un jour, « Frère Eyring, je suis émerveillé. Chaque fois que j'entends parler d'un membre de la paroisse qui a des difficultés, je me dépêche d'aller l'aider. Mais il semble que lorsque j'arrive, votre femme soit déjà passée avant moi. » Cela a toujours été ainsi partout où nous avons habité en 56 ans. Maintenant, elle ne peut plus beaucoup parler. Elle reçoit la visite de personnes qu'elle a aimées pour le Seigneur. Tous les soirs et tous les matins, je chante des cantiques avec elle et nous prions. C'est moi qui dois faire les prières. Je la vois parfois articuler doucement les paroles des cantiques. Elle a une préférence pour les chants pour les enfants. Le sentiment qu'elle semble aimer le plus est résumé dans le chant « Jésus-Christ est mon modèle ». L'autre jour, après avoir chanté les paroles du refrain « Aime ton prochain, Jésus t'aime aussi, et tout ce que tu fais, toujours, sois gentil ». Elle a dit doucement mais clairement « Essaie encore ». Je pense que lorsqu'elle verra le Sauveur, Elle découvrira qu'il a mis son nom dans son cœur et qu'elle est devenue comme lui. Maintenant, il la porte dans ses difficultés et il vous portera à travers les vôtres. Je vous témoigne que le Sauveur vous connaît et vous aime. Il connaît votre nom comme vous connaissez le sien. Il connaît vos difficultés. Par son expiation, il a vaincu le monde. En étant disposé à prendre son nom sur vous, vous allégerez le fardeau de nombreuses autres personnes et vous finirez par découvrir que vous connaissez mieux le Sauveur et que vous l'aimez davantage. Son nom sera dans votre cœur et gravé dans votre mémoire. Je vous en témoigne avec reconnaissance pour la bonté aimante qu'il a envers moi, envers mes êtres chers et envers vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.
For her entire life,
tout au long de sa vie, ma femme Melinda s'est efforcée de tout son cœur d'être un disciple fidèle de Jésus-Christ. Pourtant, depuis sa jeunesse, elle se sentait indigne de l'amour et des bénédictions de notre Père Céleste parce qu'elle ne comprenait pas bien sa nature. Fort heureusement, elle a continué de respecter les commandements malgré la tristesse qu'elle éprouvait. Il y a quelques années, elle a vécu une série d'expériences qui l'ont aidée à mieux comprendre la nature de Dieu, notamment son amour pour ses enfants et sa reconnaissance pour nos efforts, même imparfaits, pour accomplir son œuvre. Elle explique l'influence que cela a eue sur elle. Je suis maintenant convaincu que le plan du Père fonctionne, qu'il s'associe personnellement à notre succès et qu'il nous fournit les leçons et les expériences dont nous avons besoin pour retourner en sa présence. Je me vois et je vois les autres avantages comme Dieu nous voit. Je suis capable d'éduquer, d'enseigner, de servir avec plus d'amour et moins de crainte. J'éprouve de la paix et de l'assurance à la place de l'anxiété et du manque de confiance. Au lieu de me sentir jugé, je me sens soutenu. Ma foi est plus certaine. Je ressens l'amour de mon Père plus souvent et plus intensément. Avoir une idée correcte de la personnalité de notre Père Céleste, de sa perfection et de ses attributs est essentiel pour exercer une loi suffisante pour obtenir l'exaltation. La compréhension correcte de la personnalité de notre Père Céleste peut changer la vision que nous avons de nous-mêmes et d'autrui, et nous aider à comprendre l'amour immense de Dieu pour ses enfants et son grand désir de nous aider à devenir comme lui. Une vision erronée de sa nature peut nous faire croire que nous sommes incapables de revenir en sa présence. Mon objectif aujourd'hui est d'enseigner les points de doctrine clés concernant le Père qui permettront à chacun de nous, mais surtout aux personnes qui se demandent si Dieu les aime, de mieux comprendre sa véritable personnalité et d'exercer plus de foi en lui, en son Fils et dans son plan pour nous. Dans la vie prémortelle, nous sommes nés sous forme d'esprit, de parents célestes, et avons vécu avec eux en tant que famille. Ils nous connaissaient, nous instruisaient et nous aimaient. Nous avions le vif désir d'être comme notre Père Céleste. Mais nous savions que pour cela, nous devrions, premièrement, obtenir un corps physique, immortel et glorifié. Deuxièmement, nous marier et constituer une famille par le pouvoir de scellement de la prêtrise. Et troisièmement, acquérir toute connaissance, tout pouvoir et tous les attributs divins. Pour ce faire, le Père a conçu un plan qui nous permettrait, à certaines conditions, d'obtenir un corps physique qui deviendrait immortel et glorifié à la résurrection, de nous marier et de fonder une famille dans la condition mortelle ou, pour les fidèles qui n'en auraient pas l'occasion, après cette vie, de progresser vers la perfection et finalement de retourner auprès de nos parents célestes et de vivre avec eux et notre famille dans un état d'exaltation et de bonheur éternel. Les Écritures appellent ce plan le plan du salut. Nous étions si reconnaissants de ce plan que nous avons poussé des cris de joie quand on nous l'a présenté. Chacun de nous a accepté les conditions du plan qui impliquaient notamment de vivre les expériences et les difficultés de la condition mortelle qui nous aideraient à acquérir les attributs divins. Dans la condition mortelle, notre Père Céleste nous place dans les conditions dont nous avons besoin pour progresser selon son plan. Il a engendré Jésus-Christ dans la chair et l'a aidé à accomplir sa mission dans la condition mortelle. De la même manière, notre Père Céleste nous aidera tous si nous nous efforçons de respecter ses commandements. Il nous donne le libre arbitre. Notre vie est entre ses mains et nos jours sont connus et ne seront pas diminués. Il veille à ce que tout, au bout du compte, concourt au bien de ceux qu'il aime. C'est lui qui nous donne notre pain quotidien, c'est-à-dire à la fois la nourriture que nous mangeons et la force dont nous avons besoin pour respecter ses commandements. Il nous accorde de bons dons. Il entend nos prières et y répond. Notre Père Céleste nous délivre du mal lorsque nous le laissons faire. Il pleure pour nous quand nous souffrons. En définitive, toutes nos bénédictions viennent du Père. Il nous guide et nous fournit les expériences dont nous avons besoin en fonction de nos forces, de nos faiblesses et de nos choix, afin que nous portions du bon fruit. Il nous châtie lorsqu'il le faut, parce qu'il nous aime. C'est un homme de conseil qui nous en donnera si nous le lui demandons. C'est notre Père Céleste qui nous envoie l'influence et le don du Saint-Esprit. Grâce au don du Saint-Esprit, la gloire du Père, ou son intelligence, sa lumière et son pouvoir peuvent demeurer en nous. Si nous nous efforçons d'acquérir plus de lumière et de vérité, jusqu'à ce que nous ayons l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu, notre Père Céleste enverra le Saint-Esprit de promesse, nous sceller pour la vie éternelle et nous dévoilera sa face, dans cette vie ou dans la suivante. Dans le monde post-mortel des esprits, notre Père Céleste continue de déverser le Saint-Esprit et d'envoyer des missionnaires aux personnes qui ont besoin de l'Évangile. Il répond aux prières et aide ceux de ses enfants qui n'ont pas reçu des ordonnances salvatrices à les recevoir par procuration. Le Père a suscité Jésus-Christ et lui a donné le pouvoir de réaliser la résurrection, moyen par lequel nous obtenons un corps immortel. La rédemption et la résurrection réalisées par le Sauveur nous ramènent dans la présence du Père, où nous serons jugés par Jésus-Christ. Les personnes qui se reposent sur les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint-Messie recevront un corps glorifié comme le Père et demeureront avec lui dans un état de bonheur sans fin. Alors, il essuiera toutes nos larmes et nous aidera à continuer notre parcours pour devenir comme lui. Comme vous pouvez le voir, notre Père Céleste est toujours là pour nous. Pour devenir comme le Père, nous devons acquérir ses attributs et sa perfection. Le Père est infini et éternel. Il est parfaitement juste, miséricordieux, bon, longanime et désire uniquement le mieux pour nous. Notre Père Céleste est amour. Il respecte ses alliances. Il ne change pas. Il ne peut pas mentir. Il ne fait point exception de personne. Il connaît toutes choses passées, présentes et futures depuis le commencement. Il est plus intelligent que nous tous. Il a tout pouvoir et accomplit tout ce qu'il prend à cœur de faire. Mes frères et sœurs, nous pouvons faire confiance au Père et nous reposer sur lui. Grâce à sa perspective éternelle, notre Père Céleste voit des choses que nous ne voyons pas. Sa joie, son œuvre et sa gloire sont de réaliser notre immortalité et notre exaltation. Tout ce qu'il fait est pour notre bien. Il veut notre bonheur éternel encore plus que nous. Et il n'exigerait pas que nous connaissions un moment de difficulté de plus que cela n'est absolument nécessaire pour notre bien ou celui de nos êtres chers. Par conséquent, sa préoccupation première est de nous aider à progresser et non de nous juger ou de nous condamner. En tant que fils et filles d'Esprit de Dieu, chacun de nous a le potentiel de devenir comme le Père. Pour cela, nous devons adorer le Père au nom du Fils. Nous le faisons en nous efforçant d'obéir à sa volonté, tout comme le Sauveur l'a fait, et en nous repentant continuellement. Ce faisant, nous recevons grâce sur grâce, jusqu'à recevoir de la plénitude du Père, et jusqu'à ce que nous soyons dotés de sa personnalité, de sa perfection et de ses attributs. Étant donné la distance entre ce que nous sommes en tant qu'êtres mortels et ce que notre Père Céleste est devenu, il n'est pas surprenant que certains pensent qu'il est impossible de devenir comme lui. Néanmoins, les Écritures sont claires. Si nous nous attachons au Christ avec foi, nous repentons et recherchons la grâce de Dieu par l'obéissance, nous deviendrons un jour comme le Père. C'est un grand réconfort de savoir que les personnes qui s'efforcent d'être obéissantes recevront grâce sur grâce et recevrons en définitive de sa plénitude. En d'autres termes, nous ne deviendrons pas comme le Père par nos seuls efforts. Cela se fera par les dons de sa grâce, parfois grands, mais le plus souvent petits, qui s'ajouteront les uns aux autres jusqu'à ce que nous en ayons une plénitude. Mais cela se fera. Je vous invite à croire que notre Père Céleste sait comment vous exalter. Recherchez quotidiennement son soutien et allez de l'avant avec foi au Christ, même lorsque vous ne parvenez pas à ressentir l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas concernant le fait de devenir comme le Père. Mais je peux témoigner avec certitude que s'efforcer de devenir comme le Père vaut tous les sacrifices. Les sacrifices que nous faisons ici dans la condition mortelle, aussi grands soient-ils, ne sont rien comparés à la joie, au bonheur et à l'amour incommensurable que nous ressentirons en présence de Dieu. Si vous avez du mal à croire que cela vaut les sacrifices que l'on vous demande de faire, le Sauveur vous appelle en disant, « Vous n'avez pas encore compris combien sont grandes les bénédictions que le Père a préparées pour vous. » Vous ne pouvez pas supporter tout maintenant. Néanmoins, prenez courage, car je vous guiderai le long du chemin. Je témoigne que votre Père Céleste vous aime et désire que vous viviez de nouveau avec lui. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Mes frères et sœurs, récemment, pendant que je réfléchissais à la responsabilité que le président Nelson nous a confiée d'appeler l'Église par son nom révélé, j'ai consulté les instructions que le Sauveur a données aux Néphites à ce sujet. J'étais frappé en lisant qu'il a dit aussi au peuple, « Vous devez prendre sur vous le nom du Christ. » Cela m'a fait m'évaluer et me demander, « Est-ce que je prends sur moi le nom du Sauveur comme il voudrait que je le fasse ?» Aujourd'hui, je vais vous parler des impressions que j'ai reçues en réponse à ma question. Premièrement, prendre sur nous le nom du Christ signifie que nous nous efforçons fidèlement de voir comme Dieu voit. Comme Dieu voit-il ? Comment Dieu voit-il ? Joseph Smith a dit, « Tandis qu'une partie du genre humain juge et condamne impitoyablement l'autre, le Père suprême de l'univers contemple la famille humaine tout entière avec un souci et une considération paternelle. » Car son amour est insondable. Il y a quelques années, ma sœur aînée est décédée. Elle avait eu une vie difficile. Elle avait du mal avec l'Évangile et n'avait jamais été vraiment pratiquante. Son mari l'avait quittée, la laissant avec 4 jeunes enfants à élever. Le soir de son décès, entourée de ses enfants, je lui ai donné une bénédiction afin qu'elle quitte cette terre paisiblement. À cet instant, je me suis rendu compte que j'avais trop souvent défini la vie de ma sœur en fonction de ses épreuves et de son inactivité dans l'Église. En lui imposant les mains ce soir-là, j'ai été sévèrement réprimandé par l'Esprit. Il m'a fait prendre pleinement conscience de sa bonté et m'a permis de la voir telle que Dieu la voyait. Non pas comme quelqu'un qui avait du mal avec l'Évangile et la vie, mais comme quelqu'un aux prises avec des problèmes difficiles que je n'avais pas. Je l'ai vue comme une mère magnifique qui, en dépit de grands obstacles, avait élevé 4 beaux enfants extraordinaires. Je l'ai vue comme l'amie de notre mère qui a pris le temps de veiller sur elle et de lui tenir compagnie après le décès de notre père. Je crois que pendant cette dernière soirée avec ma sœur, Dieu me demandait, « Ne vois-tu pas que toutes les personnes qui t'entourent sont des êtres sacrés ?» Brigham Young a enseigné, « J'aimerais exhorter les saints à comprendre les hommes et les femmes tels qu'ils sont et non à les comprendre tels que vous êtes. » On dit souvent, « Telle personne a commis une faute et ne peut pas être un saint. » Nous entendons qu'ils jurent et mentent ou enfreignent le sabbat. Ne jugez pas de telles personnes car vous ne connaissez pas les desseins de Dieu à leur sujet. Soyez plutôt patients avec elles. Est-ce que l'un de vous peut imaginer le Sauveur vous laissant, vous et vos fardeaux, passer inaperçus à côté de lui? Le Sauveur a regardé la Samaritaine, la femme adultère, le collecteur d'impôts, le lépreux, le malade mental et le pécheur avec les mêmes yeux. Tous étaient enfants de son Père et tous étaient rachetables. Pouvez-vous imaginer se détournant de quelqu'un en proie au doute concernant sa place dans le royaume de Dieu ou de quelqu'un affligé de quelque manière que ce soit? Je ne peux pas. Aux yeux du Christ, chaque âme est d'une valeur infinie. Personne n'est préordonné pour échouer. La vie éternelle est possible pour tous. J'ai tiré une grande leçon de la réprimande de l'esprit au chevet de ma sœur. Si nous voyons comme il voit, notre victoire sera double. La rédemption des personnes que nous touchons et la nôtre. Deuxièmement, pour prendre sur nous le nom de Christ, nous devons non seulement voir comme Dieu voit, mais aussi faire son œuvre et servir comme il a servi. Nous vivons les deux grands commandements. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous rassemblons Israël et nous faisons luire notre lumière devant les hommes. Nous recevons et respectons les alliances et les ordonnances de son Église rétablie. Si nous faisons cela, Dieu nous dote du pouvoir d'apporter des bénédictions à nous, à notre famille et aux autres. Demandez-vous, est-ce que je connais quelqu'un qui n'a pas besoin des puissances des cieux dans sa vie? Dieu opérera des prodiges parmi nous si nous nous sanctifions. Nous nous sanctifions en nous purifiant le cœur. Nous nous purifions le cœur quand nous l'écoutons. Nous repentons de nos péchés, nous convertissons et aimons comme il aimait. Le Sauveur nous a demandé, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? J'ai récemment été informé d'un épisode de la vie de James A. Talmage qui m'a fait réfléchir à la manière dont j'aime et je sers mon entourage. Lorsqu'il était jeune professeur, avant de devenir apôtre au plus fort de l'épidémie mortelle de diphtérie de 1892, Frère Talmage a découvert qu'une famille d'inconnus, non membres de l'Église, qui habitait près de chez lui, était atteinte de la maladie. Personne ne voulait se mettre en danger en entrant dans la maison contaminée. Frère Talmage, lui, se rendit immédiatement chez elle. Il y trouva 4 enfants, un de 2 ans et demi-mort sur le plancher, 2 de 5 et 10 ans qui souffraient beaucoup, et un de 13 ans affaibli. Les parents étaient accablés de chagrin et de fatigue. Frère Talmage habilla le mort et les vivants, balaya les pièces, sortit le linge souillé et brûla des chiffons immondes imprégnés de la maladie. Il travaille toute la journée et revint le lendemain matin. L'enfant de 10 ans était mort pendant la nuit. Il souleva et porta celle de 5 ans. En toussant, elle aspergeait son visage et ses vêtements de mucus sanguinolent. Il écrivit « Je ne pouvais pas la poser » et il l'atteint jusqu'à ce qu'elle meure dans ses bras. Il aida à enterrer les trois enfants et fit apporter de la nourriture et du linge propre à la famille endeuillée. En rentrant chez lui, il se débarrassa de ses vêtements, se baigna dans une solution de zinc, se tint à l'écart de sa famille et subit un accès atténué de la maladie. Tant de vies autour de nous sont en jeu. Nous prenons le nom du Sauveur sur nous en nous sanctifiant et en servant tous les gens, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur situation. Des vies sont sauvées quand nous le faisons. Enfin, je crois que pour prendre son nom sur nous, nous devons lui faire confiance. Un dimanche, alors que j'assistais à une réunion, une jeune femme a demandé en substance « Mon petit ami et moi venons de rompre, il a décidé de quitter l'Église. » Et il me dit qu'il n'a jamais été aussi heureux. Comment est-ce possible? Le Sauveur a répondu à cette question quand il a dit au Néphite « Mais si votre vie n'est pas édifiée sur mon évangile et est édifiée sur les œuvres des hommes ou sur les œuvres du diable, en vérité, je vous dis que vous trouvez de la joie dans vos œuvres pendant un certain temps et bientôt la fin arrive. » Il n'existe tout simplement pas de joie durable hors de l'évangile de Jésus-Christ. Lors de cette réunion, j'ai pensé aux nombreuses bonnes personnes que je connais qui portent de lourds fardeaux et ont du mal à respecter des commandements qui sont pour le moins décourageants pour elles. Je me demande, qu'est-ce que le Sauveur leur dirait d'autre? Je crois qu'il demanderait, « Me fais-tu confiance ?» À la femme atteinte d'une perte de sang, il a dit, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » L'une de mes écritures préférées est Jean 4:4 qui dit « Il fallait qu'il passât par la Samarie ». Pourquoi est-ce que j'aime cette écriture? Parce que Jésus n'avait pas besoin d'aller en Samarie. Les Juifs de son époque détestaient les Samaritains et contournaient la région. Mais Jésus a choisi d'y aller pour déclarer pour la première fois devant tout le monde qu'il était le Messie promis. Pour donner ce message, il a non seulement choisi un groupe réprouvé, mais en plus, une femme, et pas n'importe laquelle, une femme qui vivait dans le péché, quelqu'un que l'on considérait comme une moins que rien à l'époque. Je crois qu'il l'a fait pour que chacun de nous comprenne que son amour est plus grand que nos craintes, nos dépendances, nos doutes, nos tentations, nos péchés, notre famille déchirée, notre dépression et nos anxiétés, notre maladie chronique, notre pauvreté, nos sévices et notre désespoir. Il veut que tous sachent qu'il n'y a rien ni personne qui ne peut guérir et conduire à la joie durable. Sa grâce suffit. Lui seul est descendu au-dessous de toute chose. Le pouvoir dans son expiation est le pouvoir de vaincre n'importe quel fardeau de notre vie. Le message de la femme au puits est qu'il connaît notre situation et que nous pouvons toujours marcher avec lui où que nous nous trouvions. À elle et à chacun de nous, il dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais il aura une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dans n'importe lequel des voyages de la vie, pourquoi vous détourneriez-vous du seul Sauveur qui a tout pourvoir pour vous guérir et vous délivrer? Quel que soit le prix que vous devez payer pour lui faire confiance, cela en vaut la peine. Mes frères et sœurs, choisissons de faire grandir notre foi à notre Père Céleste et à notre Sauveur Jésus-Christ. Du plus profond de mon âme, je rends témoignage que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est l'Église du Sauveur. Nous sommes dirigés par le Christ vivant par l'intermédiaire d'un vrai prophète. Je prie pour que nous prenions fidèlement le nom de Jésus-Christ sur nous en voyant comme il voit, en servant comme il a servi, et en étant confiant que sa grâce suffit pour nous conduire à notre foyer et à la joie durable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Quelques mois après le début de sa mission, le plus jeune de nos fils finissait d'étudier avec son collègue quand il a ressenti une douleur sourde à la tête. Il se sentait tout drôle. D'abord, il a perdu le contrôle de son bras gauche, puis sa langue s'est engourdie. La partie gauche de son visage a commencé à s'affaisser. Il avait du mal à parler. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il faisait un AVC à trois endroits du cerveau. Il a commencé à prendre peur lorsqu'il a été partiellement paralysé. La rapidité de la prise en charge d'une victime d'un AVC a des effets spectaculaires sur sa guérison. Son fidèle collègue missionnaire a agi résolument. Après avoir appelé les urgences, il lui a donné une bénédiction. Par miracle, l'ambulance était à 5 minutes de chez eux. Dès son arrivée aux urgences de l'hôpital, le personnel médical a rapidement évalué la situation et décidé qu'il devait lui donner un médicament qui pourrait dissiper les effets paralysants de l'attaque cérébrale avec le temps. Cependant, s'il ne s'agissait pas d'un AVC, le médicament pourrait avoir de graves conséquences telles qu'une hémorragie cérébrale. Notre fils devait choisir. Il a accepté le médicament. La guérison complète a nécessité plusieurs opérations et a pris de nombreux mois. Mais une fois que les effets de son AVC se sont suffisamment inversés, notre fils est retourné en mission et l'a terminé. Notre Père Céleste est tout-puissant et omniscient. Il connaît nos difficultés physiques, il est conscient de nos douleurs physiques causées par la maladie, le vieillissement, les accidents ou les problèmes congénitaux. Il connaît nos difficultés émotionnelles liées à l'anxiété, la solitude, la dépression ou la maladie mentale. Il sait qui a subi des injustices ou des sévices. Il connaît nos faiblesses et les tendances, les tentations contre lesquelles nous luttons. Pendant cette vie, nous sommes mis à l'épreuve pour voir si nous choisirons le bien ou le mal. Ceux qui respectent ses commandements demeureront avec lui dans un état de bonheur sans fin. Pour nous aider dans notre progression, pour devenir comme lui, notre Père Céleste a donné tout pouvoir et toute connaissance à son Fils, Jésus-Christ. Il n'est pas de maladie physique, émotionnelle ou spirituelle que le Christ ne puisse guérir. Les Écritures rapportent de nombreux miracles où, pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ a utilisé son pouvoir divin pour guérir des personnes qui souffraient physiquement. L'Évangile de Jean rapporte l'histoire d'un homme atteint d'une maladie débilitante depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit qu'il n'avait personne pour l'aider quand il en avait le plus besoin. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Notez le contraste entre la durée de la souffrance de l'homme, 38 ans, et la rapidité de la guérison, une fois que le Sauveur est intervenu. Elle a été immédiate. Dans un autre cas, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, s'approcha derrière lui et toucha le bord de son vêtement. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, déclara devant tout le peuple comment elle avait été guérie à l'instant. Pendant son ministère, le Christ a enseigné qu'il avait pouvoir sur le corps physique. Nous ne pouvons pas décider du moment où il nous guérira de nos maladies physiques. La guérison se produit selon sa volonté et sa sagesse. Certains personnages des Écritures ont souffert pendant des décennies, d'autres toute leur vie terrestre. Nos infirmités peuvent nous raffiner et nous faire nous appuyer davantage sur Dieu. Mais lorsque nous permettons au Christ d'intervenir, il nous fortifie toujours spirituellement, de sorte que nous avons une plus grande capacité de porter nos fardeaux. Enfin, nous savons que chaque maladie, douleur ou imperfection physique sera guérie à la résurrection. C'est un don offert à toute l'humanité grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut guérir plus que notre corps physique. Il peut également guérir notre esprit. À plusieurs reprises dans les Écritures, nous apprenons comment le Christ a aidé et guéri des personnes dont l'esprit était faible. Quand nous méditons sur ces expériences, notre espérance et notre foi dans le pouvoir qu'a le Sauveur de nous bénir grandissent. Jésus-Christ peut changer notre cœur, nous guérir des effets de l'injustice ou des sévices et accroître notre capacité de supporter le deuil ou le chagrin, nous apportant la paix pour endurer les épreuves, nous guérissant émotionnellement. Le Christ peut aussi nous guérir quand nous péchons. Nous péchons quand nous enfreignons sciemment l'une des lois de Dieu. Notre âme devient alors impure. Rien d'impur ne peut demeurer en présence de Dieu. Être purifié du péché, c'est guérir spirituellement. Dieu le Père sait que nous allons pécher, mais il a préparé un moyen de nous racheter. Lynn Robbins a enseigné, « Le repentir n'est pas le plan de secours de Dieu au cas où nous échouerions. Le repentir est son plan, sachant que nous échouerons. » Quand nous péchons, nous avons la possibilité de choisir le bien ou le mal. Nous choisissons le bien quand nous nous repentons après avoir péché. Grâce à Jésus-Christ et à son sacrifice expiatoire, nous pouvons être rachetés et ramenés en présence de Dieu le Père si nous nous repentons. La guérison spirituelle n'est pas unilatérale. Elle nécessite le pouvoir rédempteur du Sauveur et le repentir sincère du pécheur. Les gens qui choisissent de ne pas se repentir rejettent la guérison offerte par le Christ. Pour eux, c'est comme si aucune rédemption n'avait été faite. Lors d'entretiens avec des personnes cherchant à se repentir, j'ai été étonné de voir combien il est difficile aux pécheurs de prendre de bonnes décisions. Le Saint-Esprit les quitte et ils ont du mal à faire des choix qui les rapprocheraient de Dieu. Ils luttent des mois, voire des années, honteux ou effrayés des conséquences de leurs péchés. Ils ont souvent l'impression qu'ils ne pourront jamais changer ou être pardonnés. Je les ai souvent entendus exprimer leur crainte que si leurs êtres chers apprenaient ce qu'ils avaient fait, ils ne les aimeraient plus et les quitteraient. Quand ils pensaient ainsi, ils se résignaient à rester silencieux et à retarder leur repentir. Ils pensaient à tort qu'il valait mieux ne pas se repentir maintenant pour ne pas blesser davantage leurs êtres chers. Dans leur esprit, il était préférable de souffrir après cette vie plutôt que d'amorcer le processus du repentir maintenant. Frères et sœurs, ce n'est jamais une bonne idée de différer votre repentir. L'adversaire utilise souvent la crainte pour nous empêcher d'agir immédiatement avec foi en Jésus-Christ. Quand les êtres chers sont confrontés à la réalité d'un comportement pécheur, bien qu'ils puissent se sentir profondément blessés, ils veulent souvent aider le pécheur sincèrement repentant à changer et à se réconcilier avec Dieu. En effet, la guérison spirituelle s'accélère lorsqu'un pécheur se confesse et est entouré par ceux qu'il aime et l'aide à abandonner ses péchés. Souvenez-vous que Jésus-Christ est puissant à sauver les victimes innocentes du péché qui se tournent vers lui. Boyd Packer a déclaré « Notre esprit est endommagé lorsque nous commettons des fautes et péchons. Mais à l'inverse de notre corps mortel, lorsque le processus du repentir est complet, nous ne gardons aucune cicatrice grâce à l'expiation de Jésus-Christ. La promesse est la suivante. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. De plus, si nous nous repentons d'un cœur pleinement résolu, c'est immédiatement que le grand plan de rédemption se réalisera dans notre vie. Le Sauveur nous guérira. Le collègue missionnaire et les professionnels de santé qui ont aidé notre fils pendant son AVC en mission ont agi rapidement. Notre fils a choisi de prendre le médicament. Les effets paralysants de son attaque, qu'il aurait pu garder à vie, se sont dissipés. De même, plus nous nous repentons rapidement et laissons agir l'expiation de Jésus-Christ dans notre vie, plus nous sommes guéris rapidement des effets du péché. Le président Nelson a proposé ceci. Si vous vous êtes éloigné du chemin, je vous invite à y revenir. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, il y a une place pour vous au sein de l'Église du Seigneur. Vous-même et les générations à venir serez bénis par votre choix de revenir sur le chemin des alliances maintenant. Notre guérison spirituelle nécessite que nous nous soumettions aux conditions définies par notre Sauveur. Nous ne devons pas tarder, nous devons agir aujourd'hui. Agissez maintenant pour que la paralysie spirituelle n'entrave pas votre progression éternelle. Pendant mon message, si vous avez ressenti le besoin de demander pardon à quelqu'un à qui vous avez fait du tort, je vous invite à agir. Dites-lui ce que vous avez fait. Demandez-lui pardon. Si vous avez commis un péché qui vous empêche d'aller au temple, je vous invite à en parler avec votre évêque aujourd'hui. Ne tardez pas. Mes frères et sœurs, Dieu est notre Père céleste aimant. Il a donné tout pouvoir et toute connaissance à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Grâce à lui, un jour et pour toujours, tous les hommes seront guéris de leurs infirmités physiques. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, si nous choisissons de nous repentir et de tourner complètement notre cœur vers le Sauveur, il nous guérira spirituellement. Cette guérison peut commencer à l'instant. Le choix nous appartient. Voulons-nous être guéris? Je témoigne que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions être guéris. Cependant, nous devons accepter de prendre le médicament qu'il nous propose. Prenez-le aujourd'hui. Ne tardez pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Gloire au Dieu Tout-Puissant », le numéro 32 dans le recueil des Cantiques. Après ce chant, nous entendrons Dale Renlund du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Jacques Gérard des 70. Gary Stevenson du Collège des 12 Apôtres s'adressera ensuite à nous.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. Le personnage de fiction, Mary Poppins, est une gouvernante anglaise typique, mais elle possède des pouvoirs magiques. Elle est amenée par le vent d'Est pour aider la famille Banks, qui est en difficulté au 17 Cherry Tree Lane dans Londres de l'époque édouardienne. On lui confie la responsabilité de s'occuper des enfants, Jane et Michael. Fermement, mais gentiment, elle commence à leur enseigner des leçons précieuses avec une touche enchanteresse. Jane et Michael font des progrès considérables, mais Mary décide qu'il est temps qu'elle s'en aille. Dans la version théâtrale, Bert, l'ami ramoneur de Mary, essaie de la dissuader de partir. Il argumente, « Mais ce sont de bons enfants, Mary. » Celle-ci répond, « Me soucierais-je d'eux s'ils ne l'étaient pas, mais je ne peux pas les aider s'ils ne me laissent pas faire, et il n'est personne de plus difficile à instruire qu'un enfant qui sait tout. » Bert demandait alors, Mary répond, « Alors ils vont devoir apprendre la suite tout seuls. » Mes frères et sœurs, comme Jane et Michael Banks, nous sommes de bons enfants qui méritent qu'on se soucie d'eux. Notre Père Céleste désire nous aider et nous bénir, mais nous ne les laissons pas toujours faire. Parfois, nous agissons même comme si nous savions déjà tout. Et nous aussi avons besoin d'apprendre la suite tout seuls. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici-bas, quittant notre foyer prémortel céleste. Apprendre la suite implique que nous fassions des choix. En tant que parents, le but de notre Père Céleste n'est pas que ses enfants fassent ce qui est juste, mais qu'ils choisissent de faire ce qui est juste et deviennent un jour comme lui. S'il voulait simplement que nous soyons obéissants, il se servirait de récompenses et de punitions pour influer sur notre comportement. Mais Dieu ne désire pas que ses enfants deviennent des animaux de compagnie bien dressés et obéissants qui ne mordiront pas ses pantoufles dans le salon céleste. Non, Dieu veut que ses enfants grandissent spirituellement et se joignent à lui dans l'entreprise familiale. Dieu a établi un plan par lequel nous pouvons devenir héritiers dans son royaume, un chemin d'alliance qui nous mène à devenir comme lui, à avoir le genre de vie qu'il a et à vivre en famille en sa présence pour toujours. Le choix personnel a été et est essentiel à ce plan dont nous avons pris connaissance dans l'existence prémortelle. Nous l'avons accepté et avons choisi de venir sur la terre. Pour garantir que nous exercions ou que nous exercerions notre foi et utiliserions notre libre arbitre correctement, un voile d'oubli a été abaissé sur notre esprit afin que nous ne nous souvenions plus du plan de Dieu. Sans ce voile, les desseins de Dieu ne pourraient se réaliser car nous ne pourrions progresser et devenir les héritiers dignes de confiance qu'il désire que nous soyons. Le prophète Lehi a déclaré, « C'est pourquoi le Seigneur Dieu donna à l'homme d'agir par lui-même. C'est pourquoi l'homme ne pourrait agir par lui-même s'il n'était attiré par l'attrait de l'un ou de l'autre. À un niveau fondamental, une des options est représentée par Jésus-Christ, le premier-né du Père. L'autre option est représentée par Satan, Lucifer, qui veut détruire le libre arbitre et usurper le pouvoir. En Jésus-Christ, nous avons un avocat auprès du Père. Après avoir accompli son sacrifice expiatoire, Jésus est monté au ciel pour revendiquer auprès du Père les droits de miséricorde qu'il a sur les enfants des hommes. Et ayant obtenu ces droits de miséricorde, il défend la cause des enfants des hommes. Dans son plaidoyer en notre faveur auprès du Père, le Christ n'est pas un adversaire. Jésus-Christ, qui a accepté que sa volonté soit engloutie dans celle du Père, ne prendrait la défense que de ce qui est conforme à la volonté du Père. Il ne fait aucun doute que notre Père Céleste se réjouit de nos succès et les applaudit. Le plaidoyer du Christ consiste au moins en partie à nous rappeler qu'il a payé pour nos péchés et que personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. qui croit en Jésus-Christ, se repent, est baptisé et persévère jusqu'à la fin, processus qui mène à la réconciliation, le Sauveur pardonne, guérit et défend. Il est notre soutien, notre consolateur, notre médiateur, attestant notre réconciliation avec Dieu et s'en portant garant. Contraste frappant, Lucifer, lui, est un accusateur ou un avocat général. Jean le Révélateur a décrit la défaite ultime de Lucifer. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Pourquoi ? Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lucifer est l'accusateur. Il s'est exprimé contre nous dans l'existence prémortelle et il continue de nous dénoncer dans cette vie. Il cherche à nous abattre. Il veut que nous soyons malheureux à jamais. Il est celui qui nous dit que nous ne sommes pas à la hauteur, qui nous dit que nous ne sommes pas assez bien, qui nous dit qu'on ne peut se remettre d'une erreur. Il est le tyran suprême, celui qui nous frappe quand nous sommes au sol. Si Lucifer devait enseigner à marcher à un enfant et que celui-ci tombait, il hurlerait sur lui, le punirait et lui dirait d'arrêter d'essayer. Les voies de Lucifer finissent toujours par apporter le découragement et le désespoir. Ce père des mensonges est le pourvoyeur suprême de contre-vérités et il s'évertue habilement à nous tromper, à nous distraire, car il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. Si le Christ devait enseigner à marcher à un enfant et que celui-ci tombait, il l'aiderait à se relever et l'encouragerait à faire les pas suivants. Le Christ est le soutien et le consolateur. Ses voies finissent toujours par apporter la joie et l'espérance. Le plan de Dieu contient des directives à notre intention. Elles portent le nom de commandements dans les Écritures. Ces commandements ne sont ni un assortiment fantaisiste, ni une collection arbitraire de règles imposées n'ayant pour but que de nous former à être obéissants. Ils sont liés à notre capacité d'acquérir les vertus divines, à notre préparation pour retourner auprès de notre Père Céleste et recevoir la joie éternelle. Nous n'obéissons pas à l'aveugle à ses commandements. Nous choisissons en connaissance de cause Dieu et son chemin qui ramène à la maison. Le modèle qui nous est donné est le même que pour Adam et Ève. Dieu leur donna des commandements après leur avoir fait connaître le plan de rédemption. Bien qu'il veuille que nous marchions sur le chemin d'alliance, Dieu nous accorde la dignité de choisir. En effet, il désire, attend et commande que chacun de ses enfants choisisse par lui-même. Il ne nous forcera pas. Par le don du libre arbitre, Dieu fait en sorte que ses enfants puissent agir par eux-mêmes, non qu'ils soient contraints. Le libre arbitre nous permet de marcher sur le chemin ou pas. Il nous permet d'en sortir ou pas. Pas plus que nous ne pouvons être forcés d'obéir, nous ne pouvons être forcés de désobéir. Personne ne peut, sans notre coopération, nous faire quitter le chemin. À ne pas confondre avec les personnes dont le libre arbitre a été spolié. Ils ne se sont pas égarés, ce sont des victimes. Dieu les comprend, les aime et a compassion d'elles. Mais quand nous quittons le chemin, Dieu est triste, car il sait qu'un jour, invariablement, cela conduira à l'altération de notre bonheur et à la perte de bénédiction. Dans les Écritures, quitter le chemin s'appelle péché, et l'altération du bonheur et la perte des bénédictions qui en résultent sont appelées châtiments. Dans ce sens, ce n'est pas Dieu qui nous punit. Le châtiment est une conséquence de nos choix, et pas des siens. Quand nous nous apercevons que nous avons quitté le chemin, nous pouvons rester en dehors, ou bien nous pouvons, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, choisir de faire le marche arrière et de revenir sur le chemin. Dans les Écritures, le processus consistant à décider de changer et à revenir sur le chemin est appelé le repentir. Ne pas nous repentir signifie choisir de nous disqualifier et de nous priver ainsi des bénédictions que Dieu désire nous accorder. Si nous ne sommes pas disposés à jouir de ce que nous aurions pu recevoir, nous retournerons dans notre lieu propre pour jouir de ce que nous sommes disposés à recevoir. Ce sera notre choix, pas celui de Dieu. Peu importe depuis combien de temps nous avons quitté le chemin ou la distance à laquelle nous nous sommes éloignés, dès que nous décidons de changer, Dieu nous aide à revenir. Du point de vue de Dieu, si nous nous repentons sincèrement et marchons résolument, avec constance dans le Christ, une fois que nous sommes revenus sur le chemin, c'est comme si nous ne l'avions jamais quitté. Le Sauveur paie pour nos péchés et nous libère de l'altération de notre bonheur et de nos bénédictions qui nous menacent. Dans les Écritures, cela s'appelle le pardon. Après le baptême, tous les membres glissent hors du chemin. Certains y sautent même. C'est pourquoi exercer sa foi en Jésus-Christ, se repentir, recevoir son aide et être pardonné ne sont pas des événements uniques, mais constituent le processus de toute une vie, un processus répétitif et itératif. C'est ainsi que nous persévérons jusqu'à la fin. Nous devons choisir qui nous servirons. Le degré de notre bonheur éternel dépend de celui auquel nous choisissons le Dieu vivant et nous nous joignons à lui dans son œuvre. En nous efforçant de faire les pas suivants par nous-mêmes, nous nous exerçons à utiliser notre libre arbitre correctement. Comme deux anciennes présidentes générales de la Société de secours l'ont déclaré, nous ne devrions pas être des bébés ayant besoin d'être cajolés et corrigés tout le temps. Non, Dieu désire que nous devenions des adultes raisonnables et autonomes. Choisir de suivre le plan du Père est le seul moyen de devenir l'héritier dans son royaume. Ce n'est qu'alors qu'il aura suffisamment confiance en nous et sera assuré que nous ne demanderons pas ce qui est contraire à sa volonté. Mais nous devons nous rappeler qu'il n'est personne de plus difficile à instruire qu'un enfant qui sait tout. Donc, nous devons être disposés à être instruits à la manière du Seigneur par lui et ses serviteurs. Nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes des enfants aimés de parents célestes qui méritent qu'on se soucie d'eux et que faire les pas suivants par nous-mêmes ne signifiera jamais les faire seuls. Comme Jacob dans le livre de Mormon déclare, c'est pourquoi que votre cœur prenne courage et souvenez-vous que vous êtes libre d'agir par vous-même, de choisir le chemin de la mort éternelle ou le chemin de la vie éternelle. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, réconciliez-vous avec la volonté de Dieu et non avec la volonté du diable. Et souvenez-vous, lorsque vous serez réconciliés avec Dieu, que ce n'est que dans et par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Alors choisissez la foi en Christ, choisissez le repentir, choisissez d'être baptisé et de recevoir le Saint-Esprit, choisissez de vous préparer consciencieusement à la Sainte Cène et de la prendre dignement, choisissez de contracter des alliances au Temple et choisissez de servir le Dieu vivant et ses enfants. Nos choix déterminent qui nous sommes et qui nous deviendrons. Je termine avec la suite de la bénédiction de Jacob. Puisse Dieu vous relever de la mort éternelle par le pouvoir de l'expiation, afin que vous soyez reçus dans le royaume éternel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Several years ago, while preparing for a business trip, I began to experience chest pain.
J'ai commencé à éprouver des douleurs thoraciques. Inquiète, ma femme a décidé de m'accompagner. Pendant le premier vol, la douleur s'est intensifiée à tel point qu'il m'était difficile de respirer. Lorsque nous avons atterri, nous avons quitté l'aéroport et sommes allés à l'hôpital local où, après une batterie d'examens, le médecin qui s'est occupé de moi a affirmé que nous pouvions poursuivre notre voyage sans danger. Nous sommes retournés à l'aéroport et avons pris un vol pour nos destinations finales. Pendant la descente, le pilote a pris l'interphone et m'a demandé de m'identifier. Un membre de l'équipage s'est approché, a dit qu'il venait de recevoir un appel urgent et qu'une ambulance m'attendait à l'aéroport pour nous emmener à l'hôpital. Nous sommes montés dans l'ambulance et avons été transportés aux urgences. Nous y avons rencontré deux médecins inquiets qui ont expliqué que le diagnostic précédent était erroné et qu'en fait, j'avais une grave embolie pulmonaire, un caillot de sang dans le poumon qui nécessitait des soins médicaux immédiats. Ils nous ont informé que de nombreux patients n'y survivaient pas. Conscients que nous étions loin de chez nous, mais ne sachant pas si nous étions prêts pour des événements aussi bouleversants, les médecins ont dit que s'il y avait quoi que ce soit dans notre vie auquel nous devions réfléchir, eh bien c'était le moment. Je me souviens bien qu'instantanément, ma perspective a totalement changé. Ce qui me semblait si important quelques instants plus tôt avait maintenant peu d'intérêt. Mon esprit s'est enfui des préoccupations de cette vie vers une perspective éternelle. J'ai pensé à ma famille, à mes enfants, à ma femme, et j'ai fini par évaluer ma vie. Où en sommes-nous en tant que famille et individuellement? Notre vie était-elle conforme aux alliances que nous avions contractées et aux attentes du Seigneur? Ou avions-nous involontairement permis aux soucis du monde de détourner notre attention de ce qui importe le plus? Je vous invite à réfléchir à une leçon importante que j'ai tirée de cette expérience. Prendre du recul par rapport au monde et évaluer votre vie. Ou, pour employer les paroles du médecin, s'il y a quoi que ce soit dans votre vie auquel vous devez réfléchir, c'est le moment. Nous vivons dans un monde surchargé d'informations, dominé par un nombre toujours croissant de distractions qui rendent de plus en plus difficile la tâche de trier et de se concentrer sur les valeurs éternelles. Chaque jour, nous sommes bombardés de gros titres captivants présentés par des technologies en évolution rapide. À moins de prendre le temps d'y réfléchir, nous risquons de ne pas nous rendre compte de l'influence de cet environnement trépidant sur notre vie quotidienne et sur nos choix. Nous risquons de découvrir que notre vie est accaparée par les flashs d'informations que l'on voit dans et même les vidéos et les gros titres criants. Bien qu'intéressants et amusants, la plupart ont peu de rapport avec notre progression éternelle, et pourtant, ils façonnent notre vision de la condition mortelle. On pourrait comparer ces distractions profanes à celles du rêve de Léhi. En avançant sur le chemin des alliances, la main fermement agrippée sur la barre de fer, nous entendons et voyons les gens qui se moquent et montrent du doigt depuis le grand et spacieux édifice. Nous n'avons peut-être pas consciemment l'intention de le faire, mais parfois nous nous arrêtons et détournons le regard pour voir quel est tout ce tumulte. Certains d'entre nous peuvent même lâcher la barre de fer et s'en approcher pour mieux voir. D'autres peuvent se perdre entièrement à cause des gens qui se moquent d'eux. Le Sauveur nous adresse cette mise en garde. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les soucis de la vie. La révélation moderne nous rappelle que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ils ne sont pas élus parce que leur cœur se porte tellement vers les choses de ce monde et aspire tant aux honneurs des hommes. L'évaluation de notre vie nous donne l'occasion de prendre du recul par rapport au monde, de réfléchir à la position où nous sommes sur le chemin des alliances et, si nécessaire, de faire les adaptations nécessaires pour nous agripper fermement et regarder vers l'avant. Récemment, lors d'une réunion spirituelle mondiale pour les jeunes, le président Nelson les a invités à se détacher du monde en s'abstenant des réseaux sociaux pendant 7 jours. Il leur a ensuite demandé aux sœurs, hier soir, de faire de même. Il leur a ensuite demandé de remarquer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ou même leur manière de penser. Il les a ensuite invités à faire avec le Seigneur une évaluation complète de leur vie, pour s'assurer que leurs pieds sont fermement plantés sur le chemin des alliances. Il les a incités à faire les changements nécessaires en disant « Aujourd'hui est le moment idéal pour changer ». En évaluant ce que nous devons changer, nous pouvons nous poser une question pratique. Comment nous élever au-dessus des distractions de ce monde et garder les yeux rivés sur la vision de l'éternité qui se trouve devant nous? En 2007, dans un discours de conférence intitulé « Bien, mieux, encore mieux », Dallin Oaks a enseigné comment choisir et classer par ordre de priorité les nombreuses exigences conflictuelles du monde. Il a conseillé « Nous devons renoncer à certaines bonnes choses » afin d'en choisir d'autres qui sont meilleures ou bien meilleures parce qu'elles augmentent la foi au Seigneur Jésus-Christ et fortifient notre famille. » Fin de citation. Selon moi, les meilleures choses dans cette vie sont centrées sur Jésus-Christ et la compréhension des vérités éternelles relatives à son identité et à la nôtre dans notre relation avec lui. Dans nos efforts pour connaître le Sauveur, nous ne devons pas oublier qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Une vérité fondamentale. Amulek nous rappelle que cette vie est le moment de se préparer à rencontrer Dieu, le moment qui nous est donné pour nous préparer pour l'éternité. Comme un axiome bien connu nous le rappelle, nous ne sommes pas des êtres humains en train de vivre une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels en train de vivre une expérience humaine. La compréhension de notre origine divine est indispensable à notre progression éternelle et peut nous protéger des distractions de cette vie. Le Sauveur a enseigné « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le président Joseph F. Smith a affirmé « La plus grande réalisation que l'humanité puisse atteindre ici-bas est de connaître d'une manière si approfondie et si parfaite la vérité divine qu'aucun être vivant au monde ne puisse, par son exemple ou sa conduite, jamais la détourner de la connaissance qu'elle a obtenue. » Fin de citation. Dans le monde aujourd'hui, le débat sur la vérité a atteint son paroxysme. Tous les côtés revendiquent la vérité comme si c'était un concept relatif ouvert à l'interprétation personnelle. Le jeune Joseph Smith trouvait que la confusion et la lutte étaient si grandes dans sa vie qu'il était impossible de décider d'une manière sûre qui avait raison et qui avait tort. C'est dans cette guerre de paroles et de ce tumulte d'opinions qu'il chercha à être guidé par Dieu en recherchant la vérité. Lors de la conférence d'avril, le président Nelson a enseigné, citation, « Pour avoir le moindre espoir de faire le tri parmi les myriades de voix et les philosophies des hommes qui attaquent la vérité, nous devons apprendre à recevoir la révélation. » Fin de citation. Nous devons apprendre à nous en remettre à l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Pendant que ce monde avance rapidement vers des réalités alternatives, nous devons nous souvenir des paroles de Jacob. L'esprit dit la vérité et ne ment pas. C'est pourquoi il parle des choses telles qu'elles sont réellement et des choses telles qu'elles seront réellement. C'est pourquoi ces choses nous sont manifestées clairement pour le salut de notre âme. Tandis que nous prenons du recul par rapport au monde et évaluons notre vie, c'est maintenant qu'il nous faut réfléchir aux changements que nous devons opérer. Nous pouvons trouver un très grand réconfort dans la connaissance que Jésus-Christ, notre exemple, a une fois de plus montré la voie. Avant sa mort et sa résurrection, pendant qu'il œuvrait pour faire comprendre aux gens qui l'entouraient son rôle divin, il leur a rappelé qu'ils auraient la paix en lui. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. j'ai vaincu le monde. Je témoigne de lui. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Au cours d'une récente conversation, un de mes amis m'a raconté que peu de temps après son baptême, il a soudain eu l'impression de ne plus trouver sa place au sein de sa paroisse. Les missionnaires qui l'avaient instruit avaient été mutés et il a eu l'impression d'être mis à l'écart. N'ayant aucun ami dans la paroisse, il est allé retrouver ses anciens amis et a participé avec eux à des activités qui l'ont empêché d'aller à l'église, à tel point qu'il a commencé à s'éloigner du troupeau du Seigneur. Les larmes aux yeux, il a exprimé sa profonde reconnaissance pour un membre de la paroisse qui lui a tendu la main et l'a invité à revenir avec amour. En quelques mois, il est revenu, sain et sauf, dans le troupeau, se fortifiant et fortifiant les autres. Ne sommes-nous pas reconnaissants de ce berger qui, au Brésil, est allé à la recherche de ce jeune homme, Carlos E. Godoy, qui est aujourd'hui assis derrière moi en qualité de membre de la présidence des 70. Il est remarquable de voir à quel point de petits efforts peuvent avoir des conséquences éternelles. Cette vérité est au cœur des efforts fournis par l'Église pour prendre soin des personnes. Notre Père Céleste peut transformer nos petits efforts quotidiens en miracles. 6 mois seulement ont passé depuis que Russell M. Nelson a annoncé que le Seigneur a fait d'importantes modifications à la manière dont nous veillons les uns sur les autres, expliquant que nous allions mettre en œuvre une manière nouvelle et plus sainte de veiller sur les autres et de les servir, et que nous appellerions ces efforts simplement le service pastoral. Le président Nelson a aussi expliqué que la marque de l'Église vraie et vivante du Seigneur sera toujours un effort organisé et dirigé pour veiller sur tous les enfants de Dieu et leurs familles. Parce que cette Église est la sienne, nous, ses serviteurs, les servirons un par un, tout comme il l'a fait. Nous servirons en son nom, avec son pouvoir et son autorité, et avec sa volonté et son amour. Votre réaction à cette annonce a été incroyable. Nous avons reçu des comptes rendus de la grande réussite de la mise en œuvre de ces changements dans la quasi-totalité des pieux du monde entier, comme notre prophète vivant nous l'avait demandé. Par exemple, on a attribué des frères et sœurs de service pastoral aux familles, on a organisé des équipes comprenant des jeunes gens et des jeunes filles, et l'on a fait des entretiens de service pastoral. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que 6 mois avant l'annonce prophétique d'hier, un nouvel équilibre donc entre l'enseignement de l'Évangile au foyer et dans l'Église et celle concernant le service pastoral ait été fait. À partir de janvier, alors que nous passerons une heure de moins à l'Église, tout ce que nous avons appris en faisant le service pastoral nous aidera à remplir ce vide grâce à une expérience du sabbat plus élevée et plus sacrée dans notre famille et avec nos êtres chers. Avec cette organisation en place, comment savoir si nous servons à la manière du Seigneur? Aidons-nous le bon berger de la manière qu'il veut? Au cours des discussions que j'ai eues récemment avec le président Eyring, ce dernier a loué les saints pour leur adaptation à ces changements importants. Mais il a aussi confié qu'il espérait sincèrement que les membres prendraient conscience que le service pastoral ne se résume pas simplement au fait d'être gentil. Je ne dis pas qu'il n'est pas important d'être gentil, mais les membres qui comprennent le véritable esprit du service pastoral ont conscience qu'il va bien au-delà de la gentillesse. Quand on le fait à la manière du Seigneur, le service pastoral peut avoir une influence bénéfique considérable qui se poursuit dans l'éternité, comme c'est le cas pour Frère Godoy. Le Sauveur a montré par exemple, que ce que veut dire servir en le faisant par amour. Il a instruit, consolé, béni les personnes de son entourage, prié pour elles, et il a invité tout le monde à le suivre. Dans le service pastoral, effectué d'une manière plus sainte et plus noble, les membres s'efforcent, à l'aide de la prière, de servir comme ils le feraient, de toujours veiller sur les membres de l'Église, être avec eux et les fortifier, de rendre visite à chaque membre et d'aider chacun à devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Comme l'a dit ce matin, un vrai berger aime ses brebis, connaît le nom de chacune d'elles et s'intéresse personnellement à chacune d'elles. Un vieil ami était propriétaire d'un ranch où il a travaillé dur toute sa vie pour élever des vaches et des moutons dans les montagnes rocheuses. Un jour, il m'a parlé des difficultés et des dangers de l'élevage de moutons. Il m'a expliqué qu'au début du printemps, lorsque la neige avait presque entièrement fondu sur la longue chaîne de montagnes, il y installait le troupeau qui comptait environ 2000 moutons pour l'été. Il veillait sur lui jusqu'à la fin de l'automne, puis il les faisait redescendre de leur pâturage d'été pour les installer dans un pâturage d'hiver, dans le désert. Il a décrit à quel point il était difficile de s'occuper d'un troupeau aussi grand. Les journées étaient très longues, il devait se réveiller bien avant le lever du soleil et se coucher bien après la tombée de la nuit. Il lui était impossible de s'en occuper seul. D'autres personnes assistaient, un groupe composé d'ouvriers expérimentés et d'apprentis, qui bénéficiaient de la sagesse de leurs collègues. Ils comptaient également sur deux vieux chevaux, deux poulains en cours de dressage, deux vieux chiens de berger et deux ou trois chiots. Au cours de l'été, mon ami et ses brebis affrontaient le vent, les pluies torrentielles, la maladie, les blessures, la sécheresse et presque toutes les autres difficultés que l'on peut imaginer. Certaines années, ils devaient puiser de l'eau tout l'été pour maintenir les moutons en vie. Puis, chaque année, vers la fin de l'automne, lorsque l'hiver menaçait et que l'on faisait redescendre les moutons de la montagne pour les compter, il y en avait généralement plus de 200 qui étaient perdus. Le troupeau de 2000 brebis que l'on installait dans les montagnes au début du printemps ne comptait plus que 1800 moutons. La disparition de la plupart des brebis n'était pas due à la maladie ou à une mort naturelle, mais à cause de prédateurs tels que les pumas ou les coyotes. En général, ces prédateurs trouvaient les agneaux qui s'étaient mis en danger en s'éloignant du troupeau, se retirant ainsi de la protection de leur berger. Réfléchissez un moment à ce que je viens juste de décrire dans un contexte spirituel. Qui est le berger? Qui est le troupeau? Et qui sont les assistants du berger? Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré lui-même, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, et je donne ma vie pour mes brebis. » De même, le prophète Néphi a enseigné que Jésus paîtra ses brebis, et qu'en lui, elles trouveront du pâturage. Je trouve une paix durable dans la connaissance que l'Éternel est mon berger, et qu'il connaît et veille sur chacun de nous. Lorsque nous affronterons les vents, les pluies torrentielles, les maladies, les blessures et les sécheresses de la vie, le Seigneur, notre berger, prendra soin de nous. Il restaurera notre âme. Tout comme mon ami prenait soin de ses brebis avec l'aide de ses ouvriers, jeunes et vieux, de ses chevaux et de ses chiens de berger, de même, le Seigneur a besoin de notre aide pour accomplir la tâche difficile de veiller sur les brebis de son troupeau. En tant qu'enfant d'un Père céleste aimant et en tant que brebis de son troupeau, nous avons la bénédiction que Jésus-Christ nous serve individuellement. En même temps, en notre qualité de berger, nous avons la responsabilité de veiller sur les personnes qui nous entourent. Nous obéissons à la parole du Seigneur qui nous demande de le servir, d'aller en son nom et de rassembler ses brebis. Qui est un berger? Chaque homme, chaque femme et chaque enfant dans le royaume de Dieu est un berger. Il n'est pas nécessaire d'avoir un appel. Dès que nous sortons des eaux du baptême, nous sommes chargés d'accomplir cette œuvre. Nous tendons la main aux autres avec amour parce que notre Sauveur nous l'a commandé. Alma a souligné quel est le berger qui, ayant beaucoup de brebis, ne veille pas sur elles pour que les loups n'entrent pas dévorer son troupeau. Ne le chasse-t-il pas? Chaque fois que notre prochain est dans la détresse, temporellement ou spirituellement, nous accourons à son secours. Nous portons les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, nous consolons ceux qui ont besoin de consolation. C'est ce que notre Seigneur aimant attend de nous. Et le jour viendra où il nous tiendra pour responsables de la manière dont nous prenons soin de son troupeau. Mon ami berger m'a confié un autre élément très important de la surveillance des brebis sur le pâturage. Il m'a expliqué que les brebis égarées étaient particulièrement vulnérables aux dangers et aux prédateurs. En fait, ses ouvriers et lui passaient plus de 15% de leur temps à chercher les brebis perdues. Plus vite ils les trouvaient, avant qu'elles n'errent trop loin du troupeau, plus elles avaient de chances d'être saines et sauves. Retrouver la brebis perdue demande beaucoup de patience et de discipline. Il y a plusieurs années, j'ai trouvé un article d'un journal local si intrigant que je l'ai conservé. Sur la première page, on pouvait lire ce titre. Un chien déterminé refuse d'abandonner des brebis perdues. Cet article parle d'un petit nombre de brebis qui appartenaient à un élevage situé près de la propriété de mon ami et qui avaient été oubliées dans leur pâturage d'été. Deux ou trois mois plus tard, elles se sont retrouvées coincées par la neige sur les montagnes. Quand les brebis se sont retrouvées seules, le chien de berger est resté avec elles, car c'était son devoir de veiller sur elles et de les protéger. Il refusait de quitter son poste. Il est resté là, tournant autour des brebis égarées pendant des mois, dans le froid et la neige, faisant office de protecteur contre les coyotes, les pumas et tous les autres prédateurs qui feraient du mal aux brebis. Il est resté là jusqu'à ce qu'il puisse les ramener saines et sauves auprès du berger et de son troupeau. L'image qui figurait à la première page de cet article permettait à chacun de voir le caractère et la conduite de ce chien de berger. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une parabole et un enseignement du Sauveur qui nous donne une meilleure compréhension de notre responsabilité de berger, frères et sœurs de service pastoral auprès des brebis perdues. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et s'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller avec celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » En résumant la leçon qu'enseigne cette parabole, nous trouvons ce conseil précieux. Premièrement, nous devons identifier les brebis perdues. Deuxièmement, nous devons les chercher jusqu'à ce que nous les trouvions. Troisièmement, lorsque nous les avons trouvées, il se peut que nous ayons à les mettre sur nos épaules pour les ramener à la maison. Et finalement, nous les entourons d'amis à leur retour. Frères et sœurs, nous pouvons rencontrer nos plus grandes difficultés et recevoir nos plus grandes récompenses en servant les brebis égarées. Dans le Livre de Mormon, les membres de l'Église veillaient sur leur peuple et le nourrissaient des choses relatives à la justice. Nous pouvons suivre leur exemple si nous nous souvenons que le service pastoral doit être dirigé par l'Esprit et adapté aux besoins personnels de chaque membre. Il est également essentiel que nous nous efforcions d'aider les personnes et les familles à se préparer pour leur prochaine ordonnance, à respecter leurs alliances et à devenir autonome. Chaque âme est précieuse pour notre Père Céleste. Son invitation à servir est d'une importance capitale à ses yeux, car c'est son œuvre et sa gloire. C'est littéralement l'œuvre de l'éternité. Chacun de ses enfants a un potentiel incommensurable à ses yeux. Il vous aime d'un amour qui dépasse largement votre entendement. Comme le chien de berger dévoué, le Seigneur restera sur la montagne pour vous protéger au milieu du vent, des pluies torrentielles, de la neige et de bien d'autres dangers. Lors de la dernière conférence générale, le président Nelson nous a enseigné notre message au monde, et j'ajouterai au troupeau que nous servons, est simple et sincère. Nous invitons tous les enfants de Dieu des deux côtés du voile à aller au Sauveur, à recevoir les bénédictions du Saint-Temple, à connaître une joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle. Puissions-nous élever notre regard à la hauteur de cette vision prophétique afin de pouvoir guider les âmes vers le Temple et finalement vers notre Sauveur Jésus-Christ. Il n'attend pas de nous que nous accomplissions des miracles. Il nous demande seulement de lui amener nos frères et sœurs, car il a le pouvoir de racheter les âmes. Ce faisant, nous pourrons obtenir l'accomplissement de cette promesse. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. J'en témoigne, et je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
At the conclusion of the conference,
à la fin de cette conférence, nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à la préparation de ces sessions. Nous remercions tous les orateurs ainsi que toutes les personnes qui nous ont édifiés par la musique. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Our Prayer Today ». Ensuite, Michael T. des 70 fera la prière de clôture et la prochaine conférence aura lieu dans 6 mois.
Cela a été une conférence historique et inspirante. Nous regardons vers l'avenir avec enthousiasme. Nous avons été motivés à faire mieux et à être meilleurs. De merveilleux messages ont été donnés à cette chaire par nos autorités générales et officiers généraux. Et la musique a été sublime. Je vous exhorte à étudier ces discours dès cette semaine. Ils expriment la volonté du Seigneur pour son peuple aujourd'hui. Le nouveau programme d'études, centré sur le foyer, soutenu par l'Église, a le potentiel de libérer le pouvoir des familles, si chacune d'elles le suit consciencieusement et soigneusement, pour transformer son foyer en sanctuaire de foi. Je vous promets que si vous travaillez diligemment à transformer votre foyer en centre d'apprentissage de l'Évangile, au fil du temps, vos jours du sabbat deviendront un délice. Vos enfants seront heureux d'apprendre et de vivre les enseignements du Sauveur. Et l'influence de l'adversaire dans votre vie et votre foyer diminuera. Les changements dans votre famille seront spectaculaires et réconfortants. Lors de cette conférence, nous avons renforcé notre détermination de faire l'effort essentiel d'honorer le Seigneur Jésus-Christ chaque fois que nous faisons référence à son Église. Je vous promets que notre rigueur à utiliser le nom exact de l'Église du Sauveur et de ses membres fera grandir notre foi et nous permettra d'accéder à un plus grand pouvoir spirituel. Parlons maintenant des temples. Nous savons que le temps que nous passons au temple est indispensable à notre salut et à notre exaltation, ainsi qu'à ceux de notre famille. Après avoir reçu nos ordonnances du temple et contracté des alliances sacrées avec Dieu, chacun de nous a besoin de la force et l'accompagnement spirituel continu qui sont accessibles seulement dans la maison du Seigneur. Et nos ancêtres ont besoin que nous les servions par procuration. Réfléchissez à la grande miséricorde et à la justice de Dieu qui, avant la fondation du monde, a prévu un moyen d'offrir les bénédictions du temple aux personnes qui sont mortes sans connaître l'Évangile. Ces rites sacrés du temple sont anciens. Pour moi, cette ancienneté est saisissante et constitue une preuve supplémentaire de leur authenticité. Mes chers frères et sœurs, les assauts de l'adversaire deviennent exponentiellement plus intenses et plus diversifiés. Nous n'avons jamais eu autant besoin de nous rendre régulièrement au temple. Je vous supplie d'examiner dans la prière la façon dont vous utilisez votre temps. Investissez-le dans votre avenir et dans celui de votre famille. Si vous avez un temple situé à une distance raisonnable, je vous exhorte à trouver le moyen de prendre régulièrement rendez-vous avec le Seigneur, d'être dans sa sainte maison et à respecter cet engagement avec rigueur et joie. Je vous promets que le Seigneur vous apportera les miracles dont il sait que vous avez besoin si vous faites des sacrifices pour le servir et l'adorer dans ses temples. Nous avons actuellement 159 temples consacrés. Nous avons à cœur de prendre soin de chacun de ces temples et de les entretenir de la meilleure manière qui convient. Mais avec le temps, les temples ont nécessairement besoin d'être rénovés ou rafraîchis. Ainsi, nous projetons actuellement une rénovation du temple de Salt Lake et d'autres temples datant de l'époque des pionniers. Les détails de ces projets seront communiqués au fur et à mesure de leur élaboration. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous annoncer le projet d'en construire davantage. Ces temples seront construits aux endroits suivants. Mendoza, Argentine. Salvador, Brésil. Yuba City, Californie. Phnom Penh, Cambodge. Praia, Cap Vert. Higo, Guam. Puebla, Mexique. Auckland, Nouvelle-Zélande. Lagos, Nigeria. Davao, Philippines. San Juan, Puerto Rico. Et comté de Washington, Utah. La construction et l'entretien de ces temples ne changeront peut-être pas votre vie, mais le temps que vous y passerez la changera sûrement. Si vous ne vous y êtes pas rendu depuis longtemps, je vous encourage à vous préparer et à y retourner le plus tôt possible. Je vous invite ensuite à y aller et à prier pour ressentir profondément l'amour infini du Sauveur pour vous, afin que chacun obtienne le témoignage personnel qu'il continue de diriger cette œuvre sacrée et éternelle. Frères et sœurs, je vous remercie de votre foi et de votre soutien. Je vous donne ma bénédiction avec tout mon amour, afin que vous vous fassiez un festin de la parole du Seigneur et mettiez ses enseignements en pratique. Je vous affirme que la révélation perdure dans l'Église et qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Je vous bénis afin que vous ayez une foi accrue en lui et en son œuvre, ainsi que la foi et la patience de supporter vos difficultés personnelles. Je vous bénis pour que vous deveniez des saints des derniers jours exemplaires. Je vous donne cette bénédiction et je vous rends mon témoignage. Dieu vit, Jésus est le Christ. C'est son Église. Nous sommes son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you. Our loving Father in heaven.
Notre très cher Père Céleste, nous venons vers toi avec gratitude à la fin de cette conférence historique de révélation et ce week-end. Nous te remercions, Père, pour un prophète vivant à notre époque aujourd'hui, le président Russell Nelson, et les 14 autres personnes que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs. Nous prions pour une bénédiction sur eux. Veuille les bénir avec la santé, la sécurité, tandis qu'ils traversent à travers la planète pour proclamer ta parole. Nous sommes reconnaissants pour les révélations, les conseils et les instructions que nous avons reçues de leur part et de toi cette fois-ci. Veuille nous permettre d'amener ces choses avec nous dans notre vie, dans notre foyer, nos amis. Et puissions-nous être sages pour chercher ta confirmation et d'autres révélations personnelles sur la manière que ces choses peuvent nous bénir et bénir tes enfants. Nous sommes vraiment reconnaissants pour les nouveaux temples qui ont été annoncés et qui seront une bénédiction pour tes enfants fidèles à travers le monde. Te remercions, Père. Te remercions pour ta générosité et ta gentillesse et de toujours tendre la main à tous tes enfants à travers le monde. Voici, nous prions pour notre sécurité tandis que nous quittons cette conférence, que notre esprit et nos cœurs continuent à aller de l'avant en ayant cette vision de ce que nous pouvons devenir. Que cette conversion puisse s'approfondir et que notre foi en toi et en ton Fils Jésus-Christ puisse être fortifiée. Et nous pensons encore à ton serviteur, le président Russell Ballard, notre frère et servant et dirigeant, et le bénir et le réconforter sa famille dans ce moment où son épouse a été appelée à continuer son ministère de l'autre côté du voile. Père, nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 188th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.